France Inter.
Comment fonctionne la justice ? Pourquoi les citoyens que nous sommes ont-ils souvent le sentiment qu'elle se rend derrière des portes closes ? L'actualité nous renvoie régulièrement à ces questions, particulièrement en ce moment, et cette incompréhension alimente aussi les poussées de fièvre politique. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entrer dans le cœur de la machine, autour d'un sujet souvent mal compris, l'aménagement des peines. La réalité statistique, c'est que la réponse pénale en France n'a jamais été aussi forte et que la durée des peines s'allonge. Leur aménagement est souvent vu comme un cadeau fait à des gens qui n'avaient qu'à se tenir à carreau, d'autant que les audiences, celles qui décident qu'un détenu pourra purger tout ou partie de sa peine dehors, celles qui décident qu'une peine peut se poursuivre hors les murs, ces audiences ne sont jamais publiques. C'est là que vous allez entrer et c'est exceptionnel d'y glisser un micro.
Interception, Fabienne Sintès sur France Inter.
Aujourd'hui, donc, vous vous sentez suffisamment solide pour qu'il n'y ait plus d'interpellations
Oui. Le truc, c'est qu'après, moi, j'ai cramé mes chances.
En effet, vous savez, là, vous avez eu effectivement un petit peu chaud quand il y a eu le bracelet électronique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai senti qu'il y avait eu quand même à ce moment-là une prise de conscience.
Je l'avais demandé ferme.
Parmi ceux qui essayent de ramener ceux qui ont déjà cramé leur chance vers une vie normale, loin de la délinquance, loin de leur vie d'avant, vous allez croiser des Japs et des SPIP. Le JAP, c'est le juge d'application des peines. Le SPIP, c'est le service d'insertion et de probation. Des juges et des agents qui pensent que la prison n'est pas toujours le meilleur moyen d'éviter la récidive. Ils peuvent favoriser des sorties précoces, mais surtout, ils s'assurent des bonnes conditions d'insertion ou de réinsertion du condamné, car l'aménagement d'une peine reste une peine, accompagnée de suivi, de contrôle, d'obligation. Dans ce reportage, vous allez aussi croiser des parcours et des hommes cabossés, des affaires de stup, de trafic de médicaments, des délits routiers. La première porte que nous poussons, c'est celle du SPIP de La Rochette, en Seine-et-Marne. Et Sarah Guibaudeau arrive au moment de la pose d'un bracelet électronique.
Hop, asseyez-vous.
Il y a un monsieur qui est arrivé pour son placement. Hop.
Vous avez décidé de rester anonyme au vu des intimidations qu'il y a eu récemment, mais est-ce que vous pouvez me présenter votre fonction ?
Alors moi je suis surveillant pénitentiaire, donc dédié au service des bracelets électroniques. Donc votre nom c'est bon, l'adresse c'est bon aussi. Donc du coup, sur ce bracelet électronique, vous êtes assigné à des horaires notifiés par le juge d'application des peines. Donc c'est 7h-19h du lundi au vendredi et 14h-18 le samedi et le dimanche.
La semaine ça fait pas possible. Je commence à 5h30 avec les...
Vous travaillez, ouais. Donc 5h30 et vous finissez vers quelle heure ?
18h-19h.
Vous partez à 5h30 chez vous ?
Ouais.
Et le retour, 19h, c'est chez vous ça aussi ?
Ouais, c'est quand je suis chez moi.
Ok, 5h30-19h. Donc après vous allez voir la conseillère d'insertion et de probation. C'est avec elle qu'il faudra voir, c'est elle qui change les horaires. Ok. Donc ça, c'est les numéros de téléphone utiles pendant votre bracelet électronique. Donc ici, le numéro de mes collègues et moi. Et pareil, si vous faites des incidents horaires, il faut envoyer des justificatifs sur cette adresse-là. Rendez-vous médicaux, donc soit c'est mieux de nous l'envoyer avant si vous avez prévu. Si c'est pas prévu, il faut nous envoyer votre avis de passage chez le médecin sur cette adresse mail-là. Le pôle de Fresnes, c'est le pôle qui centralise tous les bracelets en Ile-de-France. Donc c'est pareil, eux ils vous appellent si vous sortez plus tôt, si vous rentrez plus tard, s'il y a un problème technique. Donc vous répondez, vous leur expliquez votre situation. Ok ? Après ça marche comme en détention. Si vous avez des demandes des permissions à faire, genre pour des mariages, baptêmes, enfin voilà, il faut le faire un mois à l'avance. Vous envoyez, elle vous expliquera les justificatifs à transmettre. Ok ? C'est bon pour vous ? Donc, je vous présente le dispositif. Donc ici, la balise posée chez vous sur une prise électrique. Donc, pas besoin d'internet ni de prise téléphonique. Et le bracelet mis à votre cheville. Donc, je vais l'installer maintenant. Il sera activé que tout à l'heure quand mon collègue passera chez vous. Et donc, je vous installe ça. Il faudrait que je voie votre cheville. N'importe quelle cheville.
Ça va.
Donc s'il y a un problème technique, genre si la sente se détache, il faut venir ici le plus rapidement possible. De toute façon, vous allez être contacté dès qu'il y a une alarme sur ce bracelet, vous êtes contacté dans... rapidement. C'est bon ?
Ouais.
Ok, merci.
Merci.
C'est une mesure qui marche bien. Enfin, pour un certain public. Pour ceux qui font des petites infractions, c'est très bien. C'est souvent des personnes qui travaillent, qui ont une famille, qui font une erreur, voilà, et qui sont mis en brasse électronique. Donc ça permet de garder le lien familial, de ne pas perdre son travail. Donc voilà.
De vous présenter.
Oui, bien sûr, je suis Claire Rabé, donc je suis directrice pénitentiaire d'insertion et de probation et donc directrice de l'antenne de La Rochette et depuis 21 ans dans l'administration pénitentiaire. Les personnes qui sont sous surveillance électronique ont un périmètre d'assignation qui est leur domicile avec des horaires. Donc la personne, quand elle sort, elle est détectée, quand elle rentre, elle est détectée.
Et la surveillance, enfin la détection, c'est un autre service?
Nous sommes gérés par le pôle centralisateur de Fresnes. Donc en fait, c'est Fresnes qui va recevoir toutes les alarmes entrées, sorties, autorisées, non autorisées, absence du domicile, et ensuite va les répercuter sur les services. Je vais vous montrer les incidents. Donc voilà, on reçoit en fait, les incidents prennent cette forme. Donc c'est un compte-rendu qui nous est envoyé avec le nom de la personne. Donc on a le type de violation. Donc ce monsieur était absent au démarrage de sa période d'assignation. Parce qu'en fait, on n'a pas de géolocalisation. Contrairement à la surveillance électronique mobile, où là, oui, il y a une géolocalisation, mais la surveillance électronique fixe, comme on l'appelle, et aménagement de peine, il n'y a pas de géoloc, on a juste un contrôle des horaires, donc des entrées et sorties de la personne. Donc là, ce monsieur, typiquement, il devait rentrer à 14h chez lui. Il n'est pas rentré, donc on a reçu une alarme comme quoi il était absent au démarrage de la période d'assignation. Il a été appelé par le pôle centralisateur de Fresnes, donc appelé sur son téléphone portable, et il a indiqué au pôle centralisateur qu'en fait il travaillait, mais il avait oublié de prévenir le SPIP. Alors j'ai employé une expression qui est peut-être un peu familière, mais ils sont marqués à la culotte en fait. Si par contre il n'était pas rentré alors qu'il ne travaillait pas, nous informons les autorités judiciaires, donc le juge d'application des peines, et ça peut aller jusqu'à la révocation et donc une réincarcération. Pour les suivis sensibles, alors on va prendre l'exemple des auteurs de violences conjugales. Quand les personnes ne sont pas rentrées au domicile et qu'ils sont injoignables depuis plus d'une heure, le directeur d'astreinte est appelé, n'importe quelle heure de la nuit, on va être appelé, pour avoir une réaction immédiate et pas attendre le lendemain l'ouverture des services.
Quels sont les délais entre une condamnation et une pose de bracelet ?
On n'a pas forcément toujours des condamnations. Enfin, une personne qui a été condamnée hier, on ne va pas forcément avoir son jugement et son bracelet un mois après. En général, c'est dans les 6 mois, parce qu'il y a toute une procédure. Donc c'est vrai que ce n'est pas un délai exceptionnel, ça va être un délai à peu près classique.
C'est une critique qui est faite à l'aménagement ou à l'application des peines, d'être parfois trop lourde avec beaucoup de démarches administratives. Est-ce qu'il faut simplifier tout ça, à votre avis ?
Pour moi, effectivement, je trouve que ça a un intérêt d'avoir en fait tous ces échelons, parce que ça permet de mettre un cadre et de rappeler en fait que ils ont été condamnés, de rappeler le cadre de la justice, de rappeler le cadre des aménagements de peine, et voilà. Mais il faut accélérer, ça c'est certain, mais parce que voilà, on manque de moyens humains de toute façon, donc au ministère de la Justice, à tous les échelons.
En France, 194 000 condamnés exécutent leur peine à l'extérieur. Une personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure à 1 an saisit le juge d'application des peines pour demander un aménagement, mais le JAP fixe des obligations à respecter.
Bonjour monsieur, pouvez vous asseoir ? Alors, je me présente, je suis Madame Lejeune, juge d'application des peines à Fontainebleau. J'ai été saisie de votre demande d'aménagement de peine concernant une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée ce 20 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny. Vous avez également été condamnée à une peine d'interdiction de séjour pendant 2 ans avec exécution provisoire à Bagnolet.
Oui.
Ces peines ont été prononcées en répression d'infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants, ce qu'on appelle plus couramment du trafic de stupéfiants, que vous aviez commis le 18 mars 2024 à Bagnolet.
C'est ça. J'étais dans le flou dans ma vie. Et en fait, je voulais aller à l'armée en fait, juste avant, et en fait, ils m'avaient refusé. Je ne savais plus trop quoi faire de ma vie, j'étais dehors, et j'ai eu les mauvaises fréquentations.
Et vous aviez quel âge ?
J'avais 24 ans peut-être.
Donc du coup, vous avez été frustré ?
C'est ça. Je traînais dehors, j'avais pas de sous, je voyais des amis faire ça. Après, j'ai fait une fois, deux fois, après ça devient un cercle sans fin en fait. Après, on continue et on croit que c'est une vie, que c'est normal, que c'est un travail. En fait, on se rend plus compte de ce qu'on fait.
Parce que vous ayez été en colère de ne pas être recruté par l'armée, c'est une chose, mais enfin, vous auriez pu choisir de faire un autre emploi salarié. Des faits même de trafic de stupéfiants, vous diriez que vous avez commencé quand ?
Dès que j'étais dehors, à 17 ans. Ouais, je faisais beaucoup de bêtises et je suis parti de chez moi. En fait, je suis parti, j'ai voulu revenir et avec la colère, mon père il m'a dit de plus jamais revenir. Et du coup, je l'ai pris au mot et je suis jamais revenu. Enfin, c'est assez compliqué ma vie.
C'est ce que j'entends. Et donc à chaque fois que les choses se sont compliquées, vous êtes retombé dans les stupéfiants en fait ?
Ouais, c'est des mauvaises fréquentations, c'est ça.
C'est plus compliqué que des mauvaises fréquentations.
Enfin oui, c'est ça. En fait, je revois les mauvaises personnes. Et ensuite, c'est un engrenage. C'est pour ça que j'ai quitté Paris. Enfin, que je suis reparti chez mes parents. J'ai essayé d'arranger les choses.
Le problème, il est double. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin d'argent facile. Et puis, il y a votre propre consommation aussi.
Mm-hmm.
Vous en êtes où, ça ?
Ça, non. C'est bon, je fume plus trop. Enfin, je fume de temps en temps. Mais je suis pas addict...
L'addiction, c'est quand on a besoin de la substance pour s'évader et que la substance vous mène à commettre des choses que vous n'auriez pas fait sans substance. Aujourd'hui, la société veut des garanties.
Mm-hmm.
Vous comprenez bien, sur vos consommations et puis aussi sur vos moyens de subsistance. Hein. On va venir contrôler si aujourd'hui vous avez réussi à vous insérer professionnellement ou pas. Mais le préalable, et moi je vous le dis, pour envisager tout aménagement de peine en l'espèce, moi je vais vous demander... la mise en place d'un suivi addictologique. À ce stade, j'entends que vous n'en êtes pas convaincu. Néanmoins, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Votre vie a été compliquée. Et c'est très précisément ces points compliqués qu'il va falloir aller travailler. Comprendre pourquoi est-ce que face à ces difficultés-là, vous avez répondu par les stupéfiants. Et ça, c'est un travail très compliqué et très long à mener. S'il y a, par le passé, eu trop de difficultés avec vos parents... ça peut être un élément de fragilité. Et alors maintenant, vous travaillez ?
Oui. Enfin, là, j'ai perdu ma formation. Mais
vous
sinon, oui, j'ai travaillé en barman.
Vous faisiez une formation de barman ?
Oui. Donc, j'ai commencé, mais j'ai pas pu la terminer. Mais je compte pas rester ici, en fait. Je compte partir dans le sud.
Vous avez quand même une peine à aménager.
Oui. Mais après, ça, c'est... on peut faire l'aménagement de peine dans le sud.
Ça dépendra du logement et de l'emploi que vous aurez trouvé.
Oui.
Je préfère vous le dire, monsieur, vous avez été condamné à 3 reprises pour des trafics de stupéfiants. Je ne vais pas vous accorder un bracelet électronique dans le sud pour être barman. Hein.
Oui, je sais bien.
Non, mais on se dit les choses franchement. Voilà.
OK.
Et vous êtes inscrit à Pôle emploi ?
Oui.
Demandez une formation à Pôle emploi.
Mais alors, il faut trouver la formation qui me plaît, c'est ça le...
Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais vous demander. Hein, pour vous accorder un aménagement de peine, que vous vous inscriviez dans un programme long. Si vous ne trouvez pas d'hébergement ailleurs pour exécuter sous forme de bracelet électronique, on peut envisager une semi-liberté. Où là, vous dormez le soir dans un centre de semi-liberté, la journée, vous pouvez aller travailler.
Ok.
Donc, c'est ce qui va être évalué par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Est-ce que vous voulez d'ores et déjà demander officiellement un bracelet électronique ou de toute façon, il faut que vous en reparliez avec le SPIP ?
Moi, j'aime bien en revoir avec le SPIP.
D'accord. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu, ma condition, ce sera l'engagement de soins addictologiques.
C'est sur combien de temps ? Un suivi comme ça ?
C'est eux qui le définiront.
Ok.
D'accord ?
Ok, ouais, ça va.
Je suis Mariana Lejeune, juge d'application des peines ici à Fontainebleau depuis 2019.
Ce suivi en milieu ouvert, il est en partie invisible pour l'opinion publique. On peut peut-être rappeler que la réponse de la justice, elle est graduelle. On ne va pas en prison au premier délit.
Évidemment, ça dépend de la gravité de l'infraction. Hein. Certaines infractions sont sanctionnées par une incarcération immédiate. Mais c'est effectivement, comme vous le dites, absolument pas notre première intention, puisque le premier rôle de la justice est d'essayer de mettre en place des techniques pour désamorcer les causes des passages à l'acte. Et c'est tout l'objet de notre action, c'est d'essayer d'identifier les raisons pour lesquelles la personne a commis l'infraction qu'on est en train de traiter, lorsqu'on est en train de la juger, et d'essayer de définir avec elle les outils qui permettront d'éviter la récidive. L'aménagement de peine, l'exécution de la peine sous forme d'aménagement, est une mesure qui se prépare. À mon sens, la contrainte pure, donc le fait d'enfermer la personne chez elle dans des horaires restrictifs, n'est pas ce qui donne du sens à la peine. Nous nous adressons à des adultes, pas des enfants. Les mettre au coin a un effet très limité. Ce que je recherche, moi, dans l'exécution de peine, c'est de reproduire des conditions de contrainte, voire de frustration, qui entraînent la personne aux contraintes réelles.
De la vie réelle.
Ouais. De la vie réelle. Et de les suivre de près pendant l'exécution de cette peine pour s'assurer justement qu'ils mettent en place les outils pour ne pas répondre ou par la violence ou surtout, et ça c'est le pire, par les consommations lorsqu'il y a une problématique addictive, ce qui est le cas dans l'extrême majorité des cas. Moi je crois que toute personne peut trouver en elle des ressorts de réinsertion, c'est-à-dire de réflexion suffisante pour comprendre pourquoi elle a commis ces faits et pour se déterminer à ne pas les recommettre. Et si on n'est pas là pour accompagner ce mouvement-là, on ne fait que, à mon sens, aggraver la délinquance.
Pour ces personnes qui sont condamnées à des peines de sursis probatoire, de bracelet électronique, de travail d'intérêt général, il y a toujours la menace d'aller en prison. Ça vous arrive souvent d'ordonner une incarcération à quelqu'un qui n'a pas respecté ses obligations ?
Ça ne m'arrive pas souvent, mais par contre, on leur rappelle souvent pour les raccrocher. Il faut comprendre aussi que le parcours de réinsertion sociale est fait de rechutes. Et donc, certaines personnes peuvent voir dans ces rechutes des échecs de nos mesures, alors que pas du tout. Nous avançons avec les personnes à leur rythme et nous sommes justement là sur le temps de la probation ou sur le temps du bracelet pour intervenir au bon moment, dès le début de la rechute, pour les confronter à leurs difficultés et à la nécessité de rebondir.
Depuis, ce condamné a bien engagé des soins. Il a obtenu son placement sous bracelet électronique en région parisienne. Le suivi essentiel est assuré par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation où nous allons maintenant à Fontainebleau.
Charbonnier. Je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation depuis juin 2013.
Je peux vous faire un petit tour du service, juste pour vous voyez comment où est-ce qu'on reçoit les personnes et comment est-ce qu'on travaille.
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc, les box d'entretien, ils sont situés sur une partie qui est censée être fermée avec la partie où le personnel a accès. Normalement, cette porte reste fermée tout le temps. Les publics ne peuvent pas aller et venir. Donc, ça permet de sécuriser un minimum les choses avec notre agent de sécurité qui est juste à côté. On a un système de voyants sur les portes. Et dans chaque box d'entretien, on a une alarme au mur. Là, on a des salles d'activité. Enfin, c'est surtout celle-là, notre salle d'activité. Où on va s'installer, qu'on utilise aussi parfois pour dérouler des entretiens qui vont être un petit peu plus profonds, parce qu'en fait, on sait et on mesure que pour que les personnes puissent se livrer sur des problématiques sensibles, personnelles, il faut que le cadre s'y prête aussi. Et être dans un petit box d'entretien où il y a un peu d'exiguïté, où on voit la grosse alarme coup de poing, où il y a le voyant, l'agent de sécurité potentiellement qui passe derrière, c'est pas forcément le lieu propice à la confidence. Alors, dites-moi tout, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu?
Ça va.
Ouais. Comment ça évolue votre situation perso qui était un petit peu tendue au niveau de la cohabitation avec madame? C'était ça qui était tendu, que vous m'aviez parlé à la fin du dernier entretien.
Du coup, maintenant ça va mieux et tout. Du coup,
c'est-à-dire
parce que quand j'avais le bracelet et tout, c'est compliqué et tout aussi. Quand on se dispute, tu peux pas partir, casser un tour et tout.
Ouais.
Est-ce que vous voulez bien me dire à quelle peine vous avez été condamné?
À la base, j'avais en tout 9 mois de bracelet.
Et donc c'était pour un délit routier?
En fait, le jugement, ils m'ont jugé pour 4 affaires différentes. C'était conduite sous stup et une fois, je m'étais pas arrêté quand ils m'ont mis gyrophare.
Refus d'obtempérer?
Ouais, voilà. En gros, je fumais du shit. J'étais positif à ça, du coup. Et c'est le juge qui m'a obligé à prendre des soins.
Oui, vous avez une obligation de soins dans le cadre du sursis probatoire, tout à fait. Au niveau du travail, ça se passe toujours bien?
Ouais, ça va. Là, en ce moment, je fais plein d'heures sup parce que y a quelqu'un en moins dans l'entreprise et tout.
Il est toujours content de vous, le patron?
Ouais, je pense.
Si. Parce que moi, il était très content quand il vous avait embauché, que je l'avais eu au téléphone sur le bracelet. Il m'avait dit que c'était rare d'avoir des petits jeunes motivés.
Ça se passe bien. De toute façon, il m'a mis tout seul en cuisine et tout, donc ce qui me fait confiance et tout. Et...
Ouais. Voilà. Comment ça se passe au niveau des consommations?
Je fume des clopes.
Et au niveau des stups, donc la dernière fois, vous m'aviez dit qu'en soirée, ponctuellement, ça pouvait vous arriver.
Ouais, mais là, ça fait vraiment longtemps. Mais après, c'est vrai que peut-être au jour de l'an, si on me propose, ou voilà. Comme les gens boivent un verre, sans devenir alcoolique.
Et oui, sauf que vous prenez le mauvais exemple, parce qu'en général, les personnes alcooliques ne peuvent plus jamais boire un verre pour maîtriser leur consommation. Donc moi, ce que j'aimerais bien comprendre, quand vous êtes à un stade, vous avez beaucoup, beaucoup avancé. On en a discuté la dernière fois par rapport au début qu'on s'est rencontrés. Il y a eu d'énormes progrès là-dessus. Et ça se voit, ça se ressent. Vous le constatez physiquement, moi je le vois aussi. C'est quoi les risques de cette consommation-là? Vous dites qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude.
Quand je vais conduire mon scoot et que je vais me faire contrôler, je vais me reprendre le bracelet. Et ce n'est pas le but.
Aujourd'hui, donc, vous vous sentez suffisamment solide pour qu'il n'y ait plus d'interpellations
Oui. Le truc, c'est qu'après, moi, j'ai cramé mes chances. Mais
vous avez cramé vos chances. C'est une jolie façon de le dire. Mais en effet, vous savez, là, vous avez eu effectivement un petit peu chaud quand il y a eu le bracelet électronique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai senti qu'il y avait eu quand même à ce moment-là une prise de conscience.
Parce que je l'avais demandé ferme.
Quand on juge une infraction, on regarde aussi le profil pénal, les antécédents judiciaires. Et c'est sûr que vous, on se dit, si un jour il y a de nouveau une infraction, même si elle est d'une gravité moindre dans l'échelle des infractions, on va tout de suite se dire, mais on lui a donné une chance, deux chances, trois chances. La dernière fois, on ne l'a même pas mis en prison, on l'a mis sous bracelet et il recommence. C'est pas possible.
C'est vrai.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée, au revoir. Merci.
Il y a donc les condamnés, comme celui-là, qui ne passeront pas par la case prison. Et puis il y a les détenus, 80 000 en tout, qui pour la plupart voudraient bien purger ce qu'il reste de leur peine dehors. La moitié d'entre eux bénéficiera d'un aménagement, 47%. Mais c'est un long parcours, une préparation dense. Il faut savoir convaincre aussi qu'on ne va pas replonger. Vous allez suivre ce processus de l'intérieur à la prison de Réau, en Seine-et-Marne.
Interception sur France Inter.
On arrive au centre pénitentiaire sud-francilien. C'est une grande prison moderne, elle a ouvert en 2011. Alors on va voir l'aménagement des peines tel qu'il existe aujourd'hui. Bonjour, vous êtes Louise Daillot?
Oui, je suis la chef d'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ici au centre pénitentiaire du sud-francilien.
Une prison prison, c'est beaucoup de portes qui s'ouvrent et qui se ferment toute la journée. On va demander une API, donc une petite alarme que vous allez pouvoir garder pendant l'entretien. Je vais en demander une pour vous et une pour moi. Et ça sert à quoi ? C'est en cas d'incident, il y a un bouton poussoir que vous allez pouvoir pousser, ça va donner l'alerte. C'est une mesure de sécurité en détention.
Bonjour. Bonjour. On va vous prendre deux API. On va au niveau des parloirs avocats.
Il y a Madame Daillot.
Oui. Et Madame Guibaudot.
Vous restez avec eux, hein ?
Oui, tout à fait.
Ok, nickel. On vous laisse expliquer le fonctionnement des API ?
Oui, merci beaucoup.
Merci. Donc vous allez pouvoir les garder avec vous, c'est pas forcément la peine de les accrocher. Le bouton rouge est à presser en cas d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce centre pénitentiaire sud-francilien ? C'est combien de détenus à peu près et quelle durée de peine ?
Alors, pour le coup, actuellement, on est à peu près à 730 détenus, tout bâtiment confondu. On va être sur la partie, en tout cas centre de détention, on va être sur des personnes condamnées, généralement sur des longues peines, plutôt supérieures à 3 ans, avec pour la maison centrale et certains quartiers longues peines, plus de 10 ans. Voilà, en tout cas des longues peines, généralement, sur le centre de détention.
Comment est-ce que vous êtes devenue directrice d'insertion et de probation ?
Pour moi, le service public pénitentiaire, dans sa filière insertion notamment, répond à un véritable enjeu de cohésion sociale et de sécurisation de la société. Un petit peu en dernier recours, en tout cas le service public de la dernière chance, c'est un peu comme ça que je l'appelle. D'une part, en mettant à l'écart les personnes qui mettent en danger à un certain moment la société, et d'autre part, en leur permettant au bon moment de réintégrer la communauté de la meilleure des manières.
Vous avez combien de conseillers SPIP, comme on dit, des conseillers d'insertion et de probation dans votre équipe ? Du coup, ça fait quel ratio de détenus par conseiller ?
9 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ce qui revient à peu près 60 dossiers par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce qui est dans les ratios corrects, en tout cas, ce qui peut être attendu pour bien travailler. La charge de travail est présente, mais on peut travailler dans des bonnes conditions avec ce nombre de dossiers.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc quel détenu a droit à un aménagement de peine et à quel moment dans la peine ?
Alors, sans rentrer dans les détails légaux,
c'est très technique, hein.
Qui sont assez techniques, on dit communément qu'une personne peut être aménageable à mi-peine. Donc, à partir de ce moment légal de la mi-peine, on va pouvoir commencer à travailler l'aménagement, donc un petit peu en amont. On va aussi faire en fonction du bon moment pour la personne. Le bon moment, ça va être un moment où la personne a stabilisé son comportement en détention, où elle a déjà réfléchi aux faits qu'elle a commis, où elle a pu travailler sur sa gestion des émotions. Et donc, pour travailler cet aménagement de peine, on va d'abord choisir, on va dire, le cadre, la semi-liberté, le placement extérieur, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a un panel d'aménagement qui va plus ou moins être contraignant, qu'on va adapter à la personne et à son profil. Et ensuite, on va travailler avec elle un projet d'emploi ou de retour à l'emploi, la continuité des soins à l'extérieur également, et un accompagnement social, le cas échéant. De manière générale, on estime que la probation, donc ce que j'entends par probation, c'est le fait de mettre à l'épreuve à l'extérieur la personne, hors du cadre de la prison, a un vrai intérêt pour la sécurité de la société. Vous allez assister à un entretien entre la conseillère et le détenu en vue du passage en débat contradictoire qui va avoir lieu la semaine prochaine. Généralement, voilà, donc on suit la personne détenue tout le long de sa détention et avant le passage en débat, on fait cet entretien qui finalement est un entretien de conclusion où on va pouvoir lui donner lecture du rapport, revenir avec lui sur l'ensemble de son parcours, recueillir aussi ses impressions.
Ce détenu, vous le suivez depuis combien de temps ?
Ça va faire plus d'un an qu'il est au centre pénitentiaire du Sud Francilien. Avant ça, il était sur une autre détention, il a été transféré chez nous. Et donc c'est pour ça qu'on a pu travailler avec lui son projet d'aménagement de peine. Je suis là avec les deux journalistes de France Inter qui vont assister aux entretiens du SPIP ce matin et cet après-midi.
D'accord, voilà. Je vous installe dans une salle.
J'ai laissé Louise Daillot, la responsable du SPIP. Je vais maintenant rencontrer ce détenu qui demande un aménagement de peine. Son anonymat doit être préservé, celui de la conseillère qui le suit aussi.
Bonjour. Bonjour, vous installez de
l'autre
côté.
Merci.
Bon, comment ça va?
Ça va, merci.
Ça va, merci. Donc du coup, monsieur, il est incarcéré pour un trafic de médicaments.
Il est condamné à combien d'ailleurs?
30 mois. Pour une première, c'est déjà pas mal. Voilà, parce qu'on parle d'un trafic de médicaments, donc ce qui veut dire qu'il y a tout ce qui est sécurité sociale, les mutuelles, les pharmacies, les médecins. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été mis en difficulté dans son affaire. Il voulait de l'argent et c'était de l'argent plutôt facile. Donc on a travaillé sur ça avec lui pour qu'il se rende compte que c'est pas une solution ni pour lui ni pour toutes les personnes qui du coup ont subi ce trafic.
Je peux vous poser quelques questions? Oui. Donc vous étiez étudiant?
Enfin, je sortais de mon bac du lycée, je viens d'obtenir mon bac. J'étais à la recherche d'emploi. Enfin, de base, je comptais faire un BTS, mais j'étais placé sur liste d'attente et j'étais refusé. J'ai pas trouvé d'école, en gros. Je suis tombé dans cette facilité qui m'a fait changer de route. Je me suis enfoncé dans ce trafic et, entre guillemets, j'étais attiré par l'argent facile et... Quand j'étais en plein cœur du trafic, je voyais pas le mauvais côté des choses. C'est une fois en détention, à force d'échanger avec des personnes extérieures, en leur expliquant le point de vue des choses, échanger avec eux, c'est là que forcément tu te rends compte des choses que tu ne voyais pas avant. Que ce soit comme on a pu dire, les préjudices, les personnes qui ont été impactées, la perte de temps, le mal que j'ai pu faire à ma famille en étant incarcéré. Je voyais pas le mauvais côté des choses, je voyais que la pointe du gain, en gros. J'ai vraiment fait le mauvais choix.
Ça fait combien de temps que vous êtes incarcéré?
Ça va faire que 2 ans, parce qu'en gros, j'étais interpellé en 2020. J'étais en attente de jugement pendant 2 ans. Et après, ensuite, j'ai été condamné et placé en détention.
Et sinon, qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter en détention?
Le plus difficile, ça reste l'enfermement, d'être loin de chez soi, de sa famille. Après, on va pas se plaindre, on est en détention. On est là pour assumer nos erreurs. Après, là, en gros, on est en centre de détention, on reste seul en cellule, ça reste entre guillemets un luxe, on va dire. C'est toujours mieux d'être seul que d'être entassé en maison d'arrêt, être à plusieurs, avec des inconnus en cellule, peut-être à 2 ou à 3, avoir à dormir au sol. Après, même en détention, il y a plusieurs choses qui font que si on veut vraiment s'investir, on veut vraiment s'en sortir, ils vont nous aider, on va vouloir se réinsérer. C'est moi, par exemple, dans mon ancienne détention où j'étais, j'ai fait un projet théâtre. Chose qu'auparavant, j'aurais mais vraiment jamais pensé faire. J'ai fait un projet qui a duré à peu près 3-4 mois. On a eu un apprentissage de texte. C'est en détention que j'ai trouvé une activité, pas forcément pour le futur, mais un truc qui m'a plu. Je pensais pas qu'un jour, j'aurais pu faire du théâtre.
On vous a donné aussi votre chance de faire autre chose que juste purger votre peine.
C'est ça.
Parce que dans tous les cas, ces personnes détenues vont sortir, même si c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils vont sortir. Donc autant qu'on mette des choses en place pour que leur sortie se passe bien. Ça ne veut pas forcément dire un aménagement de peine, même si on sait que plus les personnes sortent en aménagement de peine et plus le risque de récidive est diminué, puisque justement il y a un accompagnement et que la sortie se fait de manière progressive, puisque quelqu'un qui sort de détention en fin de peine, sans personne derrière pour faire un peu le garde-fou, on sait que c'est là où ça passe, c'est souvent beaucoup plus complexe. Et s'ils n'ont pas eu le temps de s'habituer via des permissions ou via un aménagement de peine, c'est souvent très compliqué d'arriver dehors, de se retrouver sur le parking et « mais je fais quoi maintenant de ma vie ?»
Là, typiquement, vous, quel facteur de risque vous voyez pour monsieur? Sur quoi vous avez travaillé avec lui?
C'est sa première incarcération, donc sur les facteurs de risque. Alors, c'est surtout le fait qu'il était jeune, très jeune, que c'est l'absence de travail, pouvoir avoir de l'argent plus facilement. Après, on travaille aussi sur les facteurs de protection, pas que sur les facteurs de risque. Et donc, du coup, au niveau des facteurs de protection, là, monsieur, il a un entourage qui est quand même assez présent. Il a une famille qui est soutenante. Je suis très souvent en lien avec sa sœur, par exemple, qui m'envoie tous les documents, qui est là dès qu'il y a besoin. Après, la grosse partie du travail a été de préparer son projet de sortie, avoir déjà des permissions pour qu'il, voilà, qu'il nous montre, qu'il sache respecter le cadre d'une permission, rentrer à l'heure, ce qui est important pour pouvoir ensuite bénéficier d'un bracelet. Et ensuite, il y a eu une enquête qui a été faite donc, pour vérifier son employeur, est-ce que l'employeur était bien au courant des conditions d'emploi, que monsieur aurait un bracelet, que ça nécessitait du coup des horaires particuliers. On n'est pas là pour faire sortir les personnes incarcérées en aménagement de peine de manière systématique, mais on est là pour les accompagner pour qu'ils préparent un projet, pour que le jour où ils sortent, ça se fasse dans les bonnes conditions pour éviter au maximum la récidive. Du coup, passage en débat la semaine prochaine.
C'est ça.
Vous vous sentez comment ?
Bah, pressé un peu. Hein.
Ouais.
C'est longtemps qu'on attend ça.
Là, maintenant, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, là, c'est à vous d'expliquer
ouais.
À la juge qui vous aide pour qu'elle vous fasse suffisamment confiance pour vous octroyer cette mesure.
De la convaincre au maximum.
De la convaincre, voilà, mais tout en étant vous-même. Si vous dites ce que vous pensez qu'elle attend de vous...
Je pense que, de toute façon, elle a l'habitude. Hein, tous les débats qu'elle a dû faire, elle saura faire la part des choses hein, sur quelqu'un qui raconte une belle histoire que de la vérité.
C'est ça.
Là, j'ai bien compris la leçon.
C'est, voilà, vous y allez comme vous êtes. La juge, elle ne s'attend pas à ce que vous arriviez en costume cravate.
Oui,
elle se doute
bien
qu'en détention, ce n'est pas votre tenue. Mais voilà, vous y allez comme vous êtes, tant que vous évitez le claquet de chaussettes.
Une semaine s'est écoulée, je suis de retour à la prison de Réau, cette fois pour l'audience de ce détenu, une audience devant la juge d'application des peines qui va décider si oui ou non il peut voir sa peine de prison aménagée.
Je suis Madame Loiseau, je suis la juge de l'application des peines en charge de votre dossier ici sur Réau. Vous comparaissez à l'audience en présence donc de Madame la greffière qui va prendre en note ce qu'on va dire et de Madame la procureure de la République qui donnera son avis sur votre demande. Et sont présents les deux personnes de France Inter. Vous avez été averti, vous avez signé un consentement. On est d'accord que vous êtes bien... Ok. Alors, vous avez fait partie d'un trafic. Vous avez reconnu hein, les faits,
oui.
Vous avez expliqué quel était votre rôle, vous étiez un intermédiaire, vous faisiez du transport, mais en sachant pertinemment l'organisation dans laquelle vous étiez et ce que vous transportiez. Vous aviez jusque-là été condamné qu'à des amendes, et là on vous retrouve dans ce trafic.
Comme j'ai dit, ça c'est un trafic qui m'est tombé dessus. Au début, je ne voyais pas forcément la gravité que ça a pu avoir au jour d'aujourd'hui.
Alors ça, c'est la première condamnation. Donc, c'est des faits effectivement commis en 2020, janvier 2020 au 14 juin 2020. Et il y a d'autres faits en février 2021.
Oui.
Vous étiez sous contrôle judiciaire.
J'ai eu d'autres faits d'un refus d'obtempérer. Des infractions que je regrette au jour d'aujourd'hui, parce que ça, c'est un truc qui aurait pu mener à quelque chose de beaucoup plus grave. J'aurais pu tuer quelqu'un ce jour-là ou ne serait-ce que créer un accident très grave.
Oui, conduite sans permis, défaut de maîtrise, refus d'obtempérer dangereux, donc exposant autrui à un risque de...
C'est vraiment une période où j'étais entre guillemets perdu dans ma vie, je ne savais pas ce que je faisais, j'étais totalement inconscient, même au jour d'aujourd'hui, ça c'est une chose que je regrette énormément les faits, vu que j'ai vu tout ce que ça a pu engendrer.
Mais l'ensemble de ça, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, vous commettez des nouveaux faits, vous avez un sursis probatoire que vous ne respectez pas, ça donne une impression de mépris par rapport aux mesures judiciaires.
C'est bien,
en tout cas, de désintérêt.
J'en suis conscient.
Donc il a fallu en arriver à une incarcération relativement longue pour que vous preniez conscience.
Malheureusement.
Pourquoi ça ne recommencerait pas ? Ça ou autre chose, si dans 6 mois ou dans 1 an, parce que vous avez des difficultés financières, on vous repropose.
Parce que franchement, sincèrement, quand je vous dis que ça ne m'intéresse vraiment plus, là j'ai vu l'envers du décor, j'ai vu que ma place elle n'est pas ici. Quand je vois les détenus avec qui je suis incarcéré, je vois leur âge, je vois mon âge, je vois leur parcours, c'est une vie que je ne veux pas moi, ça ne m'intéresse pas.
Alors, vous êtes effectivement suivi par le psychologue ici depuis novembre 2024,
c'est ça ?
Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Techniquement, je voulais aller voir pour un peu voir comment ça se passe, pour échanger avec une personne extérieure un peu de la détention.
La psychologue, c'est quelqu'un qui a fait des études de psychologie. Vous savez ce que c'est que la psychologie ? Donc, c'est quelqu'un avec qui, en principe, on peut faire un travail d'introspection pour essayer de comprendre soi-même ce qui s'est passé dans sa vie, comment on en est arrivé là. C'est intéressant de l'interroger pour ne pas se retrouver dans une situation similaire. Si vous identifiez ce pourquoi vous vous êtes retrouvé là-dedans, c'est intéressant. Et c'est ça, la psychologue. C'est pas juste une personne tierce pour discuter. C'est pour interroger ce qu'on a à l'intérieur. Un téléphone en novembre 2023.
Je sais très bien que c'est interdit. J'ai eu la tentation que j'ai pas su céder. Enfin, j'ai pas su rester à cette tentation d'avoir un téléphone en cellule. Je voulais échanger avec ma famille.
On peut garder des liens via la cabine.
À ce moment-là, la cabine, moi, personnellement, à Meaux, quand on y était, ça fonctionnait pas. Il y avait beaucoup de pannes. C'était régulier et même le prix de la cabine. Les coûts, ils sont assez élevés. C'est pour peu d'échanges, ça chiffre vite.
Ça chiffre vite, non ? Et un nouveau téléphone en décembre 2024.
C'est ça.
Je vais vous dire ce qui peut jouer sur votre aménagement. C'est pas tellement en soi le fait que vous ayez un téléphone dans votre cellule. C'est que finalement, vos explications là, des deux téléphones, c'est « j'ai pas su résister à la tentation ». Mais c'est la même chose, le trafic. Quand on est dehors, on a besoin d'argent. À très court terme, on vend des médocs, on vend des stupes, on vend des armes. À long terme, on fait une formation, on trouve un travail et on a un salaire. Mais évidemment, c'est plus long, c'est plus coûteux en temps, en énergie. À mon sens, on s'y retrouve. Mais vous comprenez, c'est ça.
Je comprends.
Mais... C'est à court terme, la délinquance, c'est toujours de l'argent. C'est pour ça qu'on dit que c'est la facilité.
Je vous comprends, mais comme je dis, quand je pèse le pour et le contre, le temps que ça m'a pris dans ma vie, et les problèmes que ça a pu engendrer, et les bénéfices que j'ai pu en tirer...
D'ailleurs, décembre 2024, vous n'êtes pas
ça
dit
ça. Ça m'intéresse pas.
Alors, votre projet de sortie, qu'est-ce que c'est ?
C'est dans le cabinet de kiné de mon beau-frère.
Oui.
En gros, mes missions principales, ça va être plus de le soulager de ses tâches autres que son métier dans lequel j'ai pas les compétences, que ça soit le rangement, préparer sa salle, ranger. En gros, le rangement, tout ce qui est entretien, et aussi tout ce qui est prise de rendez-vous, répondre au téléphone, accueillir le client, parce que ça, c'est des choses et des compétences que j'ai déjà, vu que j'ai un bac pro commerce, que ça soit des prises de rendez-vous, organiser son agenda.
Alors, effectivement, il y a bien eu une enquête employeur qui a révélé que tout ça, c'était bien vrai. Il y a bien une promesse d'embauche de la part de votre beau-frère. Il est kiné du sport. Il travaille notamment pour une équipe de foot. Par ailleurs, en termes d'hébergement, vous proposez un bracelet électronique chez vos parents.
C'est ça.
Ou pour le coup, un retour où vous étiez au moment des faits. Vos parents confirment qu'ils souhaitent vous accueillir. Il n'y a pas de difficulté particulière. En fait, vous allez tout simplement récupérer votre chambre dans laquelle vous étiez avant la détention. Par rapport à vos fréquentations, le retour chez vous, les gens qui sont, donc à part votre cousin, on a compris, mais les autres, c'est les amis dont vous parliez tout à l'heure.
Les autres co-auteurs de l'infraction, à part mon cousin, il n'y a que lui, je suis encore en contact avec lui. Et le reste, la plupart, comme je l'ai dit, c'est des personnes plus âgées que moi, c'est ceux qui exportaient en vrai, c'est eux, s'ils étaient basés sur Paris, c'est des personnes, je ne suis pas en contact avec eux, j'ai rien à voir avec eux, que personnellement, je ne connais pas.
La procureure, je vous écoute.
Oui, Madame la Présidente, en effet, monsieur est arrivé aux deux tiers de l'exécution de sa peine et donc on constate qu'il a entamé un travail d'introspection, même si celui-ci reste, à mon sens, assez superficiel et en surface. On constate qu'il a investi de manière plutôt positive son parcours d'exécution de peine avec les activités, le scolaire, les demandes de travail. Mais on constate aussi que dans le cadre de son parcours d'exécution de peine, les versements volontaires sont très insuffisants. Là encore, il fait passer ses besoins avant le règlement des amendes. Donc pour autant, quand on met en balance les éléments négatifs et positifs de son parcours, je retiens donc un investissement, un projet de sortie qui semble... adapté avec cette promesse d'embauche et ce logement familial dans un cadre structurant chez ses parents. Et je retiens avant tout la nécessité de préparer la sortie progressive avec cette fin de peine qui se rapproche, 28 février, donc la nécessité de le tester sur une mesure en milieu ouvert. Il n'en a jamais eu, c'est sa première incarcération. Donc, pour ces raisons, je serai favorable à cet aménagement de peine avec les obligations et interdictions préconisées par le SPIP.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur ?
Ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai un peu de mal à m'exprimer. J'espère que vous avez pris en considération ma sincérité et mon envie de sortir et de quitter tout ce monde-là, et que j'espère que vous croyez en la réinsertion et que vous allez faire part des choses et prendre en considération les dires que j'ai pu faire parvenir.
C'est entendu. Si je croyais pas en la réinsertion, je ferais un autre métier.
C'est réussi pour ce jeune détenu. Il est sorti de prison. Sa détention se poursuit chez lui, sous bracelet électronique. La justice au bout de ses peines. Un reportage de Sarah Guibaudot pour Interception, avec Julien Girard, Frédéric Cayrou, Stéphane Foulon et Nicolas Mathias à la prise de son. À la production d'Interception, Aurélien Colli et Xavier Yvon. La réalisation est signée Lucie Lemarchand. Martine Messonnier est chargée de programme. Cette semaine, au mixage, il y avait Guillaume Ficheux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.